Espace consommateur. Espace consommateur, la tribune consacrée à la protection des intérêts des consommateurs. Espace consommateur, c'est informer et sensibiliser les consommateurs sur les droits et devoirs, sur l'actualité des marchés, mais surtout sur les actions du gouvernement au profit des consommateurs. Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous. Réalisation, présentation, Jean-Claude Mabéa.
C'est une excellente nouvelle pour la Côte d'Ivoire en cette fin d'année. L'ATK Made in Côte d'Ivoire, désormais inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Une unité industrielle moderne de transformation de la mangue, financée par le programme d'appui aux filières agricoles, PADFA, sera bientôt implantée à Ferkessédougou. Un projet agro-industriel de production et de transformation de vivriers officiellement lancé à Niakaramadougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Tous nos conseils pour rester en forme pendant les fêtes de fin d'année, alimentation saine, mouvement et plaisir, vous seront proposés dans ce magazine. Madame, monsieur, bienvenue dans ce numéro de Espace Consommateur.
Espace Consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous.
Droits et devoirs du consommateur.
La Côte d'Ivoire dispose d'un important verger de manguiers, particulièrement concentré dans les régions du Poro, de la Bagoué, du Tchologo et du Hambol, avec un potentiel de production estimé à 150 000 tonnes par an. Dans le cadre de la promotion autour du programme d'appui aux filières agricoles PADFA, un projet des études pour l'implantation d'une unité industrielle moderne de transformation de la mangue dans le nord du pays a été financé par le PADFA. Le bilan partielle de ce programme est dressée ici par son coordonnateur Messou Eya.
C'est un programme cofinancé par l'État de Côte d'Ivoire et le FIDA à hauteur de 43 milliards de francs CFA. C'est un programme qui a été mis en place en 2018 et qui se poursuit jusqu'en 2026. Donc aujourd'hui, en termes de portée du programme, c'est 180 000 bénéficiaires à atteindre. Nous sommes aujourd'hui à 95% des cibles atteintes du programme. Pour vous dire que ça représente déjà un succès en termes de portée de personnes touchées par les interventions du programme. Voilà, donc nous ciblons la mangue, le riz, le maraîcher sur toute la chaîne de valeur. Donc nous avons des accompagnements dans la production, nous avons des accompagnements dans la transformation et dans la commercialisation de ces trois filières. Nous avons déjà investi énormément en matière de production et de productivité, des aménagements, des intrants, des semences et tout ça sur ces trois filières. Nous avons aussi investi massivement en matière de transformation, surtout au niveau de la mangue, à travers l'accompagnement des unités de transformation de mangue séchée. Aujourd'hui, nous passons à une étape supérieure. Nous envisageons de mettre en place une usine de transformation de mangue en jus de mangue. Donc cette unité, aujourd'hui, peut voir le jour avec la mobilisation que nous entrevoyons ici, avec les partenaires privés, les partenaires publics, et tout le patronat, tous les acteurs qui sont mobilisés autour de cette initiative, qui peut voir le jour immédiatement dès que nous avons les intérêts manifestés de l'ensemble de ces partenaires.
Parlant justement de la mangue, il situe le niveau de production nationale, non sans faire le point sur les pertes post-récolte.
Aujourd'hui, nous sommes à plus de 150 000 tonnes de mangue produites en Côte d'Ivoire. Les études que nous avons réalisées dans le cadre du PADFA le démontrent. L'exportation en 2024 est de 35 000 tonnes de mangue exportées. Il reste plus de 100 000 tonnes de mangue localement, sujette à consommation locale ou à exportation dans la sous-région. Donc il se trouve qu'en matière de pertes, on dénombre près de 40% de pertes post-récolte au niveau de la mangue, ce qui est énorme. Donc ça représente des pertes pour les populations, pour les bénéficiaires et même pour la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, mettre une unité de transformation de cette mangue fraîche en jus permet d'apporter une réponse forte au problème de pertes post-récolte et aussi de donner des revenus supplémentaires additionnels à nos bénéficiaires, à nos paysans et aussi de contribuer à la croissance économique de la Côte d'Ivoire. L'usine sera installée à Ferkessédougou. Nous avons déjà identifié un site pour cette unité en zone industrielle. Avec l'accompagnement du conseil régional, donc nous avons la mobilisation de tous ces acteurs autour de cette usine. C'est des centaines d'emplois directs et des milliers d'emplois indirects qui vont être créés dans cette zone de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, réussir à mettre en place cette unité avec la mobilisation que nous voyons ici de l'ensemble des partenaires techniques et financiers nous réjouit pleinement et nous restons confiants, nous demeurons confiants quant à la mise en œuvre rapide de cette unité dans les prochains mois. Déjà, nous avons investi en tant que programme, parce que notre financement est de 43 milliards de francs CFA. Nous avons déjà investi près de 5 milliards dans la filière mangue à travers beaucoup d'interventions dans la production, dans la transformation. Et aujourd'hui, l'usine que nous entendons mettre en place a un coût estimé de 14 milliards. Ces 14 milliards demandent des participations financières de l'ensemble des partenaires qui peuvent être intéressés pour cette usine. Donc, on aura des partenaires techniques qui ont l'expertise, la compétence et l'expérience dans la production de jus. On aura des partenaires financiers qui ont les ressources financières pour accompagner l'actionnariat et les investissements pour mettre en place la mangue. Donc, c'est ensemble qu'on peut y arriver. 14 milliards, c'est beaucoup d'argent, mais en même temps, c'est possible parce qu'on a des partenaires techniques dans le domaine, on a des partenaires financiers qui sont des banques et autres qui montrent l'intérêt d'accompagner cette unité. Ça se fait déjà au Burkina, à travers des unités comme Danfani, ça se fait au Mali, ça peut se faire en Côte d'Ivoire.
Avec les 150 000 tonnes de production annuelle de mangue, les pertes post-récolte sont estimées à 30%. Pour faire face donc à ce manque à gagner, il va falloir réaliser une grande production en vue de la transformation et la commercialisation, selon le directeur général des productions et de la sécurité alimentaire au ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, professeur Pascal Angui.
Ça a beaucoup de plaisir que nous allons implanter cette usine parce que la question de la transformation est une question primordiale puisque la transformation apporte de la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, nous voulons faire en sorte que lorsque on a un producteur, un opérateur économique, qu'il puisse vivre donc des fruits de son travail. Et donc, faire la transformation permet de créer de la valeur ajoutée, de faire en sorte qu'on puisse créer des emplois au niveau de notre pays. Il faut augmenter la production et donc à travers le PADFA, qui est un projet que nous abritons, qui est donc coordonné à notre niveau. Mais le ministère de l'Agriculture appuie à travers ma direction générale et nous faisons en sorte que la production puisse se faire et éventuellement qu'on puisse faire la transformation. Bien sûr, si on règle le problème de transformation, on règle en même temps le problème des pertes pour ces récoltes. Parce que si vous n'avez pas le temps de stocker, vous avez une usine où il faut acheminer, on n'a plus besoin de stocker et donc d'avoir des pertes post-récolte. Et puis il y a la commercialisation. Bien sûr, si on transforme, il faut évacuer. Et donc le projet travaille également sur ces aspects, faire en sorte que le triptyque production, transformation et commercialisation puisse se faire de façon fluide.
Les acteurs de la filière mangue rêvent donc de voir cette unité de transformation de mangue à faire caisser de goût se réaliser le plus vite.
Yo René, producteur de mangue à Ferkessé-Dougou. Nous aurons une unité agro-industrielle de jus de mangue à Ferkessé-Dougou. C'est une très belle initiative que nous louons et nous prions Dieu pour que ce projet se réalise très rapidement afin que nos productions soient transformées sur place. Quant à nous, acteurs de la filière mangue, nous sommes prêts à collaborer, à participer activement, que ce soit au niveau du capital, que ce soit au niveau de nos productions. En tout cas, nous sommes engagés à ce que ce projet se réalise.
Abdoul Seydou, exportateur de mangue fraîche, la Côte d'Ivoire a produit au moins 150 000 tonnes de mangue. Cette année 2024, la Côte d'Ivoire a exporté sur le marché de l'Union européenne 35 000 tonnes. Donc du coup, vous voyez le cas, s'il y a une transformation, il y a plus de la valeur ajoutée et il y a moins de pertes post-récolte. Donc c'est vraiment une très bonne initiative à encourager.
On reste dans le nord de la Côte d'Ivoire où le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobeda Kwasi Adjoumani, a officiellement lancé récemment le projet agro-industriel de production et de transformation de vivriers sur le site de l'ex-Sodepra dans le département de Niakara. Doté de 5000 hectares mis à disposition par l'État, ce complexe agro-industriel vise la production, la transformation et la commercialisation de vivriers tels que le maïs, le soja, le manioc, le sorgho et le tournesol. Avec un investissement déjà estimé à 6,236 milliards de francs CFA et de projections atteignant 10,676 milliards d'ici 2030, ce projet ambitionne de stimuler l'économie locale tout en répondant aux besoins alimentaires croissants du pays.
Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous.
Info consommateur.
C'est une véritable bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Le savoir-faire ivoirien lié à la fabrication de la tieké a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO à la suite de la 19e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de cette institution qui s'est tenue le 4 décembre 2024 au Paraguay. C'est le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, qui a annoncé cette bonne nouvelle.
Le savoir-faire ivoirien lié à la fabrication de l'attiéké a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO à la suite de la 19e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de cette institution qui s'est tenue le 4 décembre 2024 au Paraguay. Cette inscription qui fait la fierté de notre pays résulte de la volonté du président de la République de créer toutes les conditions nécessaires à la préservation et à la promotion de notre patrimoine culturel.
Désormais, seule la sémoule produite en Côte d'Ivoire peut porter le nom d'attiéké. Ce plat à base de manioc a récemment obtenu donc sa labellisation par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Mais d'où vient ce nom attiéké? Membre d'une association de transformatrices de manioc en attiéké, Akafou Rennes, originaire du village d'Anono dans la commune de Cocody, donne ici des précisions sur l'origine du nom attiéké.
Il faut dire que l'attiéké, aujourd'hui, nous allons vous le confirmer que c'est un produit typiquement ivoirien. Que tous les intinis en Côte d'Ivoire ont sa manière d'appeler l'attiéké. Mais les Akans, tels que les Agni, les Baoulés et les Apollos, on appelle ça attiéké. Dans le temps, le nom était Tchéké. Ça est venu de ce que, quand on est en train de solider les grains de l'attiéké, ça donne un bruit qu'on appelle, le bruit résonnait Tchéké, Tchéké, Tchéké. Et comme chez nous, là, on utilise beaucoup le manioc, chaque met à son nom. Et sachant pas quel nom donner à l'attiéké, le bruit qui venait du son de l'ordre de la solidation, on a préféré, les anciens ont préféré donner le nom Tchéké. Et le nom est parti de ce que les premiers commerçants de l'attiéké en Côte d'Ivoire étaient des femmes baoulées. Dans les années 60, c'est des femmes baoulées qui commercialisaient l'attiéké. Et lorsque quelqu'un venait, il disait tchéké. Et c'est au fur et à mesure et que les gens ont amélioré le nom qui ont fait attiéké. Sinon, c'était tchéké à l'origine.
L'attiéké fait donc partie des mets les plus prisés en Côte d'Ivoire et même au-delà, et cela date de longtemps, témoigne la présidente des productrices de l'attiéké des 63 villages du Grand Abidjan, Jacqueline Nao.
8 ans, quand la maman travaille, on est à côté, on essaie de faire un peu. Et pendant les vacances aussi, quand on ne va pas à l'école, on s'adapte à ça. Parce qu'il faut forcément faire ça avant de manger avec nos mamans. Quand tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Avant, on produisait 1 tonne par semaine. Aujourd'hui, on arrive à faire 5 tonnes. Avant, on gagnait peut-être 500 000 francs par semaine. Aujourd'hui, on est dans les millions. Donc, ça veut dire que beaucoup de choses ont changé et les femmes sont satisfaites de leur travail. Elles ont un bon revenu.
Cette labellisation va donc de pair avec un cahier de charges et des normes précises à respecter pour les productrices. La Côte d'Ivoire avait déposé un dossier il y a près de 7 ans auprès de l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, suivant les précisions du directeur général de l'OAPI, Denis Bouhoussou.
Un des objectifs de la labellisation, c'est de pouvoir différencier les différents produits qu'on va trouver sur le marché. Et le label IGP qu'on va apposer sur le projet va montrer que ce produit-là est le produit qui est recherché, puisque les autres ne sont que des reproductions du produit original. Donc le label va permettre de bien identifier sur les marchés le produit original.
À signaler que le même jour, l'OAPI a également labellisé le pain baoulé et le café demain.
Espace consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous.
Bon à savoir.
En général, pendant les fêtes de fin d'année, on passe de bons moments avec nos proches, notamment autour de la table. Les repas seront riches et copieux et on se dit qu'on fera attention plus tard et que ce n'est pas si grave. Mais finalement, cela gâche un peu la fête car on peut se sentir très vite fatigué ou avoir des problèmes digestifs. Nous vous partageons quelques conseils pour protéger votre organisme et votre énergie tout en prenant du plaisir. D'abord, mangez sainement et gourmand. Avoir un menu sain pour les fêtes tout en se faisant plaisir, c'est possible. Ajoutez des fruits et légumes et à tous les repas. L'autre point à prendre en compte, ce sont les quantité. Ne pas trop manger et écouter sa satiété. Le premier piège réside dans l'apéritif qui peut être trop fourni. Donc, évitez de trop en manger et concentrez-vous sur le repas. Idéalement, ne vous réservez pas et prenez de petites portions pour pouvoir goûter un peu de tout. Évidemment, on va prendre le temps de déguster, de mastiquer et de manger moins vite. Profitez du goût, de toutes les saveurs du repas que l'on vous a servi. L'hydratation est indispensable, surtout avec des plats salés et gras. Buvez donc de l'eau tout au long de la journée. De même, il est important de ne pas abuser de l'alcool. Pensez à des boissons sans alcool tout aussi festives. L'alcool va ouvrir votre appétit et est très calorique. Ensuite, restez actif et dans le mouvement. Rester dans le mouvement est essentiel. C'est ce qui vous permettra de rester en forme et de vous dépenser. Organisez-vous comme en période normale pour intégrer des séances d'exercice physique réguliers. Si vous n'en faites pas habituellement, nous vous conseillons de vous y mettre au moins 2 à 3 fois par semaine. Ceci pour, d'une part, se sentir bien dans son corps et d'autre part, brûler les calories qui peuvent s'accumuler pendant les fêtes. Si vous êtes avec des proches, demandez-leur s'ils veulent participer avec vous pour passer un bon moment convivial. Proposez des balades digestives en nature, par exemple. Le contact avec la nature, notamment s'il y a du soleil, est idéal pour se recharger. L'énergie circulera beaucoup mieux dans votre organisme. Puis, se reposer et prendre du temps pour soi. Les fêtes peuvent être une période riche en émotions. Éloignez les pensées toxiques. Ne vous stressez pas avec les courses de Noël. Vivez le moment présent. Relaxez-vous avec la méditation, par exemple, ou bien mettez-vous au tricot. L'objectif est de prendre du temps pour vous. C'est également un moment pour prendre soin de vous. Prendre un bain, faire un gommage, un masque, s'automasser. Les fêtes sont également un moment parfait pour se reposer, faire des grasses matinées, faire des siestes. Prenez un temps calme pour vous chaque jour. Enfin, profitez sans culpabilité. L'objectif principal pour prendre du plaisir pendant les fêtes, c'est bien évidemment de ne pas culpabiliser. Ce sont des moments de partage, souvent conviviaux, où l'on va profiter de nos proches. Heureux de vous avoir servi, fidèle auditeur et auditrice de Radio de la Paix. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Espace Consommateur.
Espace Consommateur. Espace Consommateur, la tribune consacrée à la protection des intérêts des consommateurs. Espace Consommateur, c'est informer et sensibiliser les consommateurs sur les droits et devoirs, sur l'actualité des marchés, mais surtout sur les actions du gouvernement au profit des consommateurs. Espace Consommateur, c'est mon espace, c'est ton espace et c'est notre affaire à tous. Réalisation, présentation, Jean-Claude Mabéa.